Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Patrice Trigano, mon invité ce matin, est un spécialiste de l'art, un historien des artistes torturés du XXe siècle à sa manière, un galeriste, rue des Beaux-Arts à Paris, et un écrivain à qui on doit, entre autres ouvrages, un beau livre sur Antonin Artaud. Il relate dans son dernier livre, L'amour égorgé, édité aux éditions Maurice Nadeau, le fulgurant et bref parcours de René Crevel, qui s'est donné la mort très jeune, à l'âge de 34 ans en 1935. René Crevel, écrivain, critique d'art, et poète. René Crevel, tout un art de vivre révolutionnaire dans la France de l'entre-deux-guerres, dadaïste avant d'être surréaliste. Et ça tombe bien puisque cette année en marque le centenaire de ce mouvement artistique, si on considère bien sûr que le texte fondateur du surréalisme, c'est le texte d'André Breton et de Philippe Soupeau, Les Champs Magnétiques, publié en mai 1920. Bonjour Patrice Trigano.
Bonjour Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Mais peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu René Crevel, ni ses poèmes, ni ses pamphlets, ni aucune des quatre œuvres littéraires majeures que sont Détour, publié en 1924, Mon corps et moi, qui est publié l'année d'après, La mort difficile, qui sort en 1926, et Êtes-vous fou, qui sort lui en 1929, comment le présenteriez-vous ?
René Crevel est un cas tout à fait singulier dans l'histoire de la littérature du XXe siècle. Il avait tout pour que sa vie soit terrible. Et sa vie fut terrible, mais elle fut belle, elle fut même très très belle, et placée sous l'égide de ce qui se faisait le mieux à l'époque dans le domaine de l'art, c'est-à-dire sous le compagnonnage d'André Gide, de Tristan de Sarra, d'André Breton, de tous les poètes du groupe surréaliste, et aussi à travers une vie mondaine qui lui servait d'antidote, si j'ose dire, aux difficultés qu'il avait dans la vie. La première difficulté qu'il a rencontrée, c'était à 14 ans.
Vous commencez votre livre consacré à René Crevel, L'amour égorgé. Ça s'ouvre effectivement sur un épisode dramatique et même traumatisant de la vie du jeune René Crevel. Un matin de juin 1914, il a 14 ans donc, il découvre le corps pendu de son père à la poutre centrale du salon de l'appartement. Et c'est sa mère qui insiste pour qu'il voie cette scène macabre.
Non seulement elle insiste, mais elle tend le doigt vers le pendu et elle dit à son jeune fils « Regarde, regarde cette ordure, regarde cette pourriture, regarde cet homme », lui laissant sous-entendre « Regarde ce que tu as fait », comme s'il était coupable du suicide de son père, ce qui évidemment n'était pas du tout le cas. Alors cette image l'a traumatisé et l'a poursuivi toute sa vie.
Et le problème et qu'avait vie, René Crevel. 20 ans, hein, je veux dire, puisqu'il va se suicider 20 ans plus tard,
oui,
à 34
ça,
ans.
C'est ça. C'est
mais,
20 ans.
Mais avant de parler de sa vie, comment sa vie et son époque ont marqué son œuvre, que peut-on dire de son œuvre? De son œuvre poétique, de son œuvre romanesque, Patrice Trigano?
C'est une œuvre qui ne ressemble à aucune autre. Il a été mêlé à l'aventure du dadaïsme, il a été mêlé à l'aventure du surréalisme, mais bon, on sait très bien que le roman n'était pas le fort de ces deux mouvements, et lui écrivait des romans, mais des romans qui pourraient d'une certaine façon préfigurer bien des choses qui se sont développées dans le courant du XXe siècle, à travers par exemple le nouveau roman.
Entre le nouveau roman et l'autofiction, puisqu'il parle beaucoup de lui-même aussi.
Oui, il est peut-être finalement le père de l'autofiction. Mais bon, la singularité, c'est qu'évidemment, il était poète. Et donc, la poésie, la parole poétique, la force de la parole poétique, la magie de la poésie est présente à chacune des lignes de son écriture. Et c'est ce qui en fait un très très grand écrivain, de mon point de vue.
Il était persuadé, lui qui n'était pas connu en son temps, il était persuadé qu'il allait être célèbre dans 50 ans. Le moins que l'on puisse dire, Patrice Trigano, c'est que la postérité n'a jamais été au rendez-vous.
C'est vrai, il est le moins connu des artistes du groupe surréaliste et j'espère que mon livre permettra de corriger un petit peu cette grande injustice.
Pourquoi vous-même, Patrice Trigano, René Crevel, vous intéresse au point de passer autant de mois et même peut-être autant d'années pour lire son œuvre, essayer de retracer son parcours et vouloir partager justement la vie et l'œuvre de de René Crevel?
Bien évidemment, ce n'est jamais par hasard. Dans mon cas, tout cela remonte à ma 20e année. Comme j'ai 73 ans, vous voyez, c'est une chose qui me travaille effectivement depuis longtemps. J'avais à l'école alsacienne un professeur de français qui était un homme absolument génial, qui s'appelait Alfred Simon, qui était critique dramatique extrêmement connu, qui participait à l'émission du Masque et la Plume chaque semaine, et qui faisait le programme de français à sa façon. C'est-à-dire que dans les années 60, il nous parlait de Samuel Beckett, de Jeanne Ionesco, de Jean Genet, et beaucoup des surréalistes, ce qui évidemment n'était pas du tout dans le programme académique. Et un jour, je me souviens qu'il a cité une phrase de René Crevel que j'ai prise en note, qui dit la chose suivante: la mosaïque des simulacres ne tient pas. Alors, sur le coup, je n'ai pas bien compris cette phrase que j'ai écrite, mais cette phrase m'a questionné, elle m'a accompagné pendant longtemps, jusqu'au jour où, effectivement, étant tombé malade à l'âge de 20 ans, j'étais à la recherche des livres qui entraient en résonance avec mon état de jeune malade et qui induisaient aussi une révolte, parce que quand on est malade à l'âge de 20 ans, ben on a envie que ça bouge, on se révolte contre la vie finalement, contre les injustices de la vie. Et donc, j'ai lu à cette époque-là Artaud, j'ai lu Jarry, j'ai lu Raymond Roussel, auquel d'ailleurs j'ai rendu hommage en écrivant des livres sur ces artistes-là. Et puis, un jour, je suis me souvenant de cette phrase de René Crevel, « La mosaïque des simulacres ne tient pas », j'ai lu « Mon corps et moi ». Un très 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 grand livre dans lequel, en termes poétiques, René Crevel parle de son mal de vivre et parle de sa maladie, parce qu'il était tuberculeux, et être tuberculeux à l'époque, c'était être très gravement malade.
C'est même la double peine, parce que ça l'éloignait de Paris, lui, le Parisien, lui, le noceur des nuits folles de Paris.
Toute sa vie,
1919-1920, il était tout le temps de...
Toute sa vie était une alternance entre de longs séjours passés au sanatorium, et dès que les médecins lui disaient « bon bah ça y est, vous allez mieux, vous pouvez revenir à Paris », il avait une espèce de volonté de se rattraper, il avait une volonté d'aller jusqu'au bout de lui-même, par l'excès. Et donc les excès, il les faisait à travers la pratique de la drogue, la consommation de l'alcool, une sexualité totalement débridée, une sexualité qui était aussi tout à fait singulière puisqu'il était totalement bisexuel.
S'il fallait parler maintenant de René Crevel, écrivain, quelles sont ses influences? Parce que ce qu'on apprend dans votre livre, Patrice Trigano, c'est que il a beaucoup travaillé sur Diderot en étant étudiant. Il a lu ses classiques, mais très précisément tous les écrivains qui ont écrit sur la Révolution française.
Alors effectivement, c'était un être révolté. Sa maladie a contribué à nourrir son sentiment de révolte. Donc tous les auteurs qui ont annoncé la Révolution française, et en particulier le marquis de Sade, faisaient partie de son panthéon. Alors, si on remonte un petit peu, naturellement, les écrivains du groupe surréaliste se sont tous intéressés à Lautréamont, qui était un grand précurseur du surréalisme, Germain Nouveau aussi. Ce sont des... Le symbolisme aussi les a intéressés.
Est-ce que René Crevel s'en inspire, s'en réclame, ou est-ce qu'il était plutôt dans la rupture ou dans l'envie d'inventer autre chose?
Alors, lorsqu'on lit ses romans, on comprend qu'il était dans la rupture. Bon, il appelait ça des romans, c'est effectivement l'ancêtre de l'autofiction, mais c'est très 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 personnel. C'est très très personnel, c'est... Il n'y a pas de chronologie directe, vous voyez, tout est emmêlé, tout est embrouillé, et en même temps, tout est d'une clarté lumineuse pour décrire ses états d'âme.
Alors justement, faisons écouter justement le style et les mots de René Crevel avec cet extrait de « Mon corps et moi ».
Alors je n'ose plus espérer que soit possible la solitude. C'est elle pourtant qui fut tout mon désir dans les théâtres où le rouge du velours sur les fauteuils depuis des mois me semblait la couleur même de l'ennui. Elle seule, longeait les enquêtes par les rues, lorsque les maisons à la fin du jour illuminaient pour de nouvelles tentations leurs chemises de pierre et de tuniques compliquées jusqu'à l'irréel. J'entrais encore dans les endroits où l'on danse ou l'on boit, conduit d'alcool, de jazz, de tout ce qui saoule, et me saoulais indifféremment à ce que j'entendais, danser, buvait, mais heureux d'entendre, de danser, de boire, pour oublier les autres qui m'avaient limité, qui ne m'avaient pas secouru.
Voilà un extrait de Mon corps et moi, publié en 1925, de René Crevalin, un extrait lu par Jean-Luc Petit. Patrice Trigano, vous qui publiez aux éditions Maurice Nadeau L'amour égorgé, donc pour raconter, pour relater le parcours de René Crevel, on voit bien dans cet extrait de texte que la fête à Paris, la fête dans les nuits parisiennes, s'accompagnait quand même de ce sentiment de solitude chez René Crevel.
Oui, parce que il éprouvait un besoin de faire un pied de nez à sa maladie qui le rongeait. Et donc, à chaque fois qu'il quittait le sanatorium pour revenir à Paris, il allait s'étourdir dans les grandes soirées parisiennes, les soirées organisées par le comte de Beaumont, par la vicomtesse Marie-Laure de Noailles, par la comtesse Pitchy-Bloom.
Par Jean Cocteau aussi, puisqu'il était fou.
Par Jean Cocteau aussi, qui était un grand animateur des soirées de Paris.
Et même du gay Paris.
Du gay Paris, tout à fait. Alors, ça lui plaisait beaucoup, il y trouvait son compte, et en même temps, il avait le sentiment que tout ça n'avait pas de sens, que tout ça était tout à fait absurde. Et cette fameuse phrase que j'ai prononcée tout à l'heure, « La mosaïque des simulacres ne tient pas », c'est finalement la conclusion qu'il apporte à sa participation aux soirées parisiennes. Tout ça, ce sont des simulacres. Ce sont des simulacres de la vie qui nous amènent à nous étourdir, qui nous amènent à oublier notre condition. Et dans son cas, sa condition d'homme malade. D'une façon générale, disait Pascal, notre finitude. C'était ce que Pascal appelait le divertissement, finalement. Bon, auquel il fallait tourner le dos. Eh bien, René Crevel n'y tournait pas le dos, mais quelque part, il avait tout à fait conscience que tout ça, c'était finalement bien, bien peu de choses.
Alors, il était aussi un observateur très attentif de ce qui se passait dans la scène artistique parisienne. Il faisait quelques comptes rendus. Il allait au spectacle, il écoutait de la musique. À partir de quel moment? Parce que le mouvement dadaïste, le surréalisme, et puis à la fin de sa vie, le communisme, ça a dû avoir quand même un cheminement idéologique chez le jeune René Crevel.
Alors, il a eu beaucoup de chance, René Crevel, dans la malchance de sa vie, si je veux dire. Les grandes chances qu'il a eues, c'est de faire des rencontres. La première rencontre qu'il a faite, ça a été avec André Gide. À une époque où, effectivement, son homosexualité lui posait beaucoup de problèmes. Il n'était pas à l'aise par rapport à lui-même. Et Gide lui a fait comprendre, lui a donné le Coridon à lire, qu'il venait de publier, et il lui a fait comprendre que il est très très important dans la vie de s'assumer tel qu'on est, et tel qu'on est, NAIT, finalement. Et ça l'a beaucoup aidé à comprendre qui il était et à s'assumer véritablement. La deuxième rencontre qu'il a faite, il n'avait plus de père, il était donc quelque part à la recherche d'un père de substitution, c'était André Breton, en qui il a trouvé un père de substitution. Et ça a été très important. Dans un premier temps, il l'a rencontré dans le cadre du mouvement Dada, puisque André Breton était un des animateurs du mouvement Dada qui avait été fondé au cabaret Voltaire le 8 février 1916 à Zurich par Trish Sansara, Hugo Ball, Marcel Janco, Jean Harpe. Et puis Trish Sansara était venu à Paris pour exporter son mouvement et puis il avait rencontré donc Breton, Philippe Soupeau, Aragon qui sont devenus...
Éluard
qui sont devenus des participants du mouvement Dada. Alors, l'idée du mouvement Dada, c'était de remettre en cause les contraintes idéologiques, esthétiques, politiques de la société du monde bourgeois, de la société judéo-chrétienne, d'une certaine façon.
Alors, lui qui était vraiment anticlérical, René Crevel, est-ce qu'il était vraiment issu d'un milieu bourgeois ?
Il était incontestablement issu d'un milieu bourgeois.
Et donc en rupture avec son milieu d'origine.
Totalement en rupture avec son milieu d'origine et en conflit permanent avec sa mère. Conflit permanent. Alors, la première chance, donc, il rencontre Gilles. La seconde chance, il rencontre André Breton. Et puis, à partir de ce moment-là, il n'a cessé de faire des rencontres extraordinaires, dont je parle dans le livre. Il a rencontré Jean Cocteau, qui ne s'entendait pas du tout avec Breton. Alors Breton lui reprochait beaucoup sa proximité avec avec Cocteau, au même titre d'ailleurs que Breton
lui reprochait aussi son homosexualité.
Parce qu'il était homophobe. C'est cet homme magnifique qui était André Breton sur le plan de l'ouverture de la pensée, qui était un exemple de pensée ouverte, anticolonialiste, antimilitariste, antipatriotique, ce qui avait du sens après la guerre de 14, évidemment, qui avait mené à un certain charnier, anticlérical, qui rejetait la famille, qui militait pour le pacifisme, l'internationalisme, l'athéisme, etc., etc. Eh bien, cet homme-là, qui aurait pu être magnifique sur toute la ligne, avait quand même un très très gros défaut, il était homophobe. Bon, c'est tout à fait inexplicable, mais enfin, les hommes ne sont pas une contradiction près. Là, André Breton a donné la preuve.
C'est quoi la contribution de René Crevel à ce mouvement ? Là, on parle des surréalistes.
Alors, les surréalistes, donc, après le mouvement Dada, il y a eu une sorte de sécession des membres. André Breton a quitté le mouvement Dada. Il a quitté Tristan Tzara, le laissant seul avec Dada, qui est mort de sa propre mort, si j'ose dire. Et il a monté le mouvement surréaliste. Alors, le mouvement surréaliste, c'était aussi un mouvement de grande contestation, mais qui invitait à la table de la révolte le rêve, l'imaginaire, le désir et l'amour. Alors, ça se traduisait par quoi ? Ça se traduisait d'abord par des réunions qui avaient lieu chaque jour dans des cafés, et on parlait, on refaisait le monde à la lumière des événements de la journée. Et il y avait évidemment une très très belle idée dans tout ça. L'idée, c'est que pour commencer à refaire le monde, il faut commencer par s'attaquer au langage. Il faut réinventer la façon de s'exprimer, réinventer le langage. Et comme tous étaient des artistes, le langage qu'ils voulaient réinventer, c'était le langage poétique, bien évidemment. Il y avait des peintres comme Max Ernst qui a cherché et qui a obtenu gain de cause pour réinventer une façon de peindre aussi à travers les frottages, à travers une multitude de pratiques picturales qui étaient nouvelles.
Le réveil culturel, Toufik Hakem.
Mais alors pour terminer, Patrice Trigano, pourquoi René Crevel va rester très confidentiel de son vivant ? On peut bien comprendre, il est à l'ombre de quelques monstres de la vie parisienne. Mais après ?
Cet homme qui a inventé effectivement, cet écrivain qui a inventé l'autofiction avait tout pour devenir un écrivain célèbre. Mais en même temps, il était poète. Ça veut dire qu'il y avait un niveau littéraire extrêmement élevé dans sa création. Alors, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que la poésie a peu d'adeptes, hélas. Le peintre poète Jacques Hérold me disait « Un monde sans poésie ne serait pas un monde ». Et il avait raison. Mais en même temps, lorsque je parlais avec Micheline Fankim, qui était l'héritière du droit moral d'Henri Michaud, et qu'elle me parlait des ventes des livres de Michaud, elle me disait « bah pour l'année, ça a été 30 exemplaires, vous voyez, de tels livres ». Donc la poésie se vend mal, parce que la poésie est difficile d'accès. Donc elle s'adresse à un public, hélas, restreint. Et je pense que c'est à cause de ça que René Crevel n'a pas la célébrité qu'il mériterait d'avoir.
Pourquoi L'amour égorgé pour Paul ?
Alors, L'amour égorgé, parce que c'est un titre qui fait référence à une sculpture de Giacometti.
Un de ses amis, d'ailleurs, puisqu'ils se sont rencontrés.
Un de ses grands amis, qui s'appelait « La femme égorgée ». Et j'ai imaginé une conversation entre Giacometti et René Crevel un soir au Sphinx. Vous savez, le Sphinx, c'était un grand bordel des années 30 et Giacometti fréquentait beaucoup cet établissement. Et un soir, René Crevel lui a dit, tu sais, finalement, je pense souvent à ta sculpture « La femme égorgée » et ça me ramène à ma propre vie. Parce que ma mère, qui disait m'aimer, finalement, j'étais pour elle son amour égorgé.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Voilà, un beau livre qui sort pour marquer le centenaire du surréalisme, révélé en 1920 par la publication du texte fondateur d'André Breton et Philippe Soupeau, Les Champs Magnétiques. Ce week-end sur France Culture, on revient justement sur le surréalisme à travers des fictions et à travers aussi l'émission de François Angelier. Mauvais genre, Patrice Trigano, L'amour égorgé, c'est édité chez Maurice Nadeau. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin.
Merci de m'avoir accueilli.
Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisé comme tous les jours par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son d'Ophar Guéry. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture.